Parlons nature. Bienvenue dans l'émission. Ça donne pas le bourdon. Proposé et co-animé par Indre Nature, l'association Épinété,
le Centre permanent d'initiative pour l'environnement
et la Réserve naturelle nationale de Chérine. Dans l'émission Ça donne pas le bourdon, tous ensemble, parlons d'environnement.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la capsule de Ça donne pas le bourdon. La semaine dernière, j'ai discuté avec Christine Rollard et les stagiaires de la formation professionnelle sur les araignées. Et on va en apprendre plein sur ces petites bêtes mal aimées, souvent à tort. Je suis avec Christine Rollard qui est la formatrice donc, du stage araignée. Est-ce que tu peux te présenter ?
Donc, je suis enseignante-chercheuse au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Et effectivement, biologiste et plutôt spécialisée sur la connaissance des araignées, hein, d'où le terme qu'on peut utiliser, aranéologue, mais ce n'est pas un métier, hein, je suis enseignante-chercheuse comme métier. Et cette formation dans la Brenne, je l'ai commencée il y a un peu plus de 20 ans, quand on m'a demandé de faire l'inventaire des araignées de la Grande Brenne et de la Petite Brenne ici, hein, une région que je ne connaissais pas du tout. Et pendant 6 ans, avec aussi des stagiaires, on a découvert un peu le monde des araignées ici. Et au CPIE, il y avait des formations et il n'y avait pas de formation araignée. Donc le chargé de mission de l'époque du parc m'a dit « Mais pourquoi on ne proposerait pas une formation araignée ? Ça n'existe pas en France. » Et donc à partir de là, on a commencé à proposer 3 jours de formation, puis comme ça plaisait, 4 jours, puis 5 jours, et maintenant on fait une semaine. Et ça fait un peu plus de 20 ans que je propose cette formation à du tout public. Hein. Donc j'ai eu des arachnophobes, j'ai eu des gens qui connaissaient rien et qui avaient envie de se former, qui étaient à la retraite, des animateurs, des gens qui sont dans des structures environnementales, donc il y a de tout. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de faire cette formation.
Je suis avec les stagiaires qui participent à la formation sur les araignées. Est-ce que vous pouvez vous présenter et dire d'où vous venez ?
Olivier Conforti, de Biotope. Donc, je suis venu depuis Metz, à côté de Agde, dans le CPE de Brenberry, pour en apprendre plus sur les araignées, dans le cadre de nos études d'inventaire.
Je suis Anthony Roum. Moi, je travaille dans une école d'agronomie à côté de Lyon, dans Lyon, à l'Isara, et donc plutôt dans de la recherche. Et je suis venu pour apprendre à identifier les araignées, parce qu'on s'intéresse aux effets des pratiques agricoles sur l'écosystème, en fait, sur l'agroécosystème, et notamment sur les prédateurs généralistes comme les araignées.
Moi, je m'appelle Arnaud Galva. J'ai pas de formation de base naturaliste, mais ça fait à peu près 3 ans que je me renseigne et que je transmets auprès de mes amis et de ma famille autour des araignées, en notant apprentissage avec des guides. Du coup, j'avais besoin aussi de vérifier que mes informations n'étaient pas parties dans des mauvaises directions. Et du coup, je suis venu à la formation pour vérifier si mes bases étaient bonnes et mes intuitions correctes.
D'accord, donc là, plutôt dans une vision de communiquer auprès de connaissances, mais du grand public, en gros.
C'est ça.
Comment vous allez réutiliser ce que vous apprenez pendant ce stage ?
Je sais que j'ai des projets de recherche en cours où on va identifier les araignées, en fait. Donc, plutôt les araignées épigées qui se déplacent à la surface du sol. Je sais que là, très prochainement, à l'automne, je vais attaquer sur ces identifications.
Pour ma part, qui a un profil pareil issu d'un bureau d'études, ce sera probablement réutilisé lors d'études d'impact, si possible, étant donné que les araignées, l'importance des araignées est de plus en plus prise en compte dans les évaluations. On commence à avoir des listes d'espèces menacées, peut-être bientôt des espèces protégées, et c'est vrai que ce sont des choses à prendre en compte de plus en plus lors des études d'impact.
Et est-ce que là, on est au début du 3e jour de formation, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont un peu marqué sur les araignées ?
Elles sont splendides.
Spectaculaires.
Soit Joyeuse.
Oui, il y a Christine qui est arrivée et qui, et qui surveille ce qui...
Ce qui est impressionnant, c'est la diversité aussi d'espèces, de toiles, d'adaptations en fonction des milieux et des micro-habitats aussi où elles sont présentes.
Alors moi, ce qui m'a le plus impressionné, je connaissais un petit peu les araignées, mais vraiment pas plus que ça avant le début de ce stage, c'était vraiment de voir la diversité d'espèces qu'on pouvait avoir dans vraiment un tout petit patch de végétation, par exemple, ou vraiment dans un tout petit secteur, on peut vraiment avoir des dizaines d'espèces très rapidement les unes sur les autres, et pourtant à chaque fois dans une niche écologique bien différente. Et c'est très impressionnant.
Non, mais c'est vrai que sur l'aspect micro-habitat, ça, elle nous amène à porter un regard différent sur certains biotopes qui étaient, que l'on peut qualifier pelouse calcaire, lisière ou des choses comme ça. Alors que si on se met à leur échelle, bah, c'est vrai qu'il y a une diversité de structures, de différentes caches et chacune a exploite, ou, enfin exploite c'est peut-être pas le bon mot, mais trouve le lieu de son lieu de vie et qui lui permet de, bah, de se nourrir, se déplacer, et ça c'est aussi intéressant, c'est cet aspect là pas que c'est vrai que ça, il y a des aspects qui sont intéressants sur en termes de d'études, connaissances ou de gestion, conservation de la nature. Donc ces aspects-là, c'est intéressant, mais c'est vrai que on se met un petit peu plus à la place de ces bestioles, et c'est vrai qu'on redécouvre les milieux d'une autre façon, quoi. On change le regard.
Ça me fait penser, il y en a, vous faisiez déjà des recherches sur les araignées. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'avaient que des connaissances très superficielles sur les araignées et pour lesquelles cette formation c'est un peu une introduction?
Oui, parce que moi j'ai découvert les araignées premier confinement Covid où j'ai espace restreint où je me suis intéressé un petit peu plus à ce que j'avais sous le nez, donc c'est vrai que les araignées sont vite arrivées et c'était une approche plus détermination à vue sur photo. Et au bout d'un moment, on voit bien qu'on est très limité si on veut aller plus loin dans la détermination, la connaissance de ce groupe d'espèces. Donc c'est vrai que là, c'était vraiment pour moi acquérir un socle de connaissances en termes de méthodes d'identification, pratique de l'identification, parce que il y a des bouquins, mais entre regarder un bouquin et suivre une formation avec application directe, c'est complètement différent. Donc là, c'est vrai que c'est pour moi un moyen de vraiment mettre le pied à l'étrier pour améliorer ma connaissance de ce groupe.
Il y a d'autres approches aussi qui n'ont pas forcément été évoquées, pas seulement avec des applications derrière, hein, mais avec des applications, je veux dire, au niveau de bureaux d'études, de structures environnementales, etc. Mais je pense qu'il y a d'autres approches quand même qu'on peut avoir.
Tout à fait. Donc moi, Julien, donc je viens d'une structure d'éducation à l'environnement. Donc la partie études ne m'intéresse moins, en fait. Hein. Je suis là, moi, pour plutôt me nourrir de le côté sensoriel, affectif, sensible de l'animal araignée qui me permet de, lors de l'animation, soit spécifique araignée, soit dans des animations plutôt généralistes sur la biodiversité, de présenter aussi ce groupe d'animaux qui est mal aimé, qui est mal connu, et ça permet d'avoir une approche plutôt sensible, hein, et puis affective de l'animal. Donc moi je suis là pour me nourrir d'anecdotes de Christine, des pouvoirs un peu extraordinaires des araignées, enfin, voilà, pour pouvoir transmettre ça et puis donner envie aux gens d'avoir une approche après naturaliste, pourquoi pas, et puis d'avoir une approche plus globale du monde des araignées dans leur environnement proche.
C'est que tu as eu déjà des réactions un peu mauvaises de personnes lors d'animation, lorsqu'elles voyaient des araignées?
Alors, on se rend compte que dans l'âge des les petits-enfants, quand on fait des animations petites bêtes, par exemple, et qu'on remplit les pots pour faire des tris, voilà, ils chopent les araignées comme ça et ils se moquent un peu, mais c'est plus tard que ça vient parce qu'ils ont sans doute des parents qui... C'est la transmission souvent aussi de la peur de l'araignée. On voit les parents qui l'écrasent, qui la mettent dehors. Et là, on est là pour justement être capable de prendre une araignée, même à l'adolescence ou l'adulte. C'est compliqué. c'est la peur, la méconnaissance. Et puis après, alors j'ai jamais eu de personnes qui sont apeurées, mais c'est quand même un animal qu'on évite. Et on voit les mamans qui accompagnent les classes souvent. Moi, la araignée, quand on fait le tri, qu'il y a la maman qui a le pot araignée, elle est plutôt mal à l'aise parce qu'évidemment, c'est elle qui va se récolter toutes les araignées dans le pot. Donc voilà, donc c'est ça aussi, que si ça permet de, c'est notre métier, nous, d'éducateurs, d'éducatrices, de pouvoir transmettre ça et puis de donner envie, quoi, d'aimer et puis de découvrir.
Et de revenir à tous les adjectifs que vous avez énoncés tout à l'heure, spectaculaire, soyeux, mettre un peu d'émerveillement.
C'est ça, exactement.
Changer son regard, en fait, par rapport, tu vois, à ces animaux qui sont vraiment, comme tu l'évoquais, mal aimés, méconnus, de rentrer justement dans la diversité qui était évoquée. Ce que je dis souvent aussi, c'est se mettre à leur échelle. On s'oublie, on n'est pas dans le monde des araignées, donc on s'oublie, tu te mets à leur échelle. Et là, tu découvres effectivement qu'elles ont leur petit coin, qu'elles ont fait leur technique de chasse particulière, qu'elles ont fait un piège ou pas de piège. Donc, tu vois. Et donc, c'est aussi ça. Donc souvent dans ma formation, ce que j'aime bien, c'est que déjà je l'ouvre à tout un tas de gens avec des niveaux différents, donc qui étaient évoqués, hein, donc des niveaux de base qui peuvent être assez faibles, et puis jusqu'à des niveaux de compétences ou d'identification qui sont plus importants. Et c'est de petit à petit, voilà, changer son regard, rentrer de plus en plus dans ce monde, jusqu'à l'observation, justement, à la loupe binoculaire, qui te permet de voir des détails sur ces animaux et de découvrir, en fait, tout un tas de caractères pour ceux qui veulent aller jusqu'à la détermination vraiment spécifique, les caractères qu'on va utiliser pour ça, quoi. Et de balayer un certain nombre d'idées fausses. Donc, du coup, par rapport aux deux premiers jours de terrain, le mercredi, c'est plutôt une partie théorique, donc avec un cours qui, même si ici je suis avec un groupe avec pas mal de compétences, reprend un certain nombre d'idées générales et sur les araignées, sur leur mode de vie, sur leur reproduction, sur etc., qu'il y ait des éléments, que ce soit à fournir justement en animation ou que ce soit à fournir aussi sur d'autres structures, quoi, tu vois.
Et là, on a parlé de toi qui, en animation, les gens un peu plus âgés, mais pas trop touchent les araignées. Tu évoquais les préjugés, que c'était des petites bêtes mal aimées. Tu peux expliquer d'où ça vient, ce fait ?
Ouais. Alors, j'ai peut-être expliqué ça et revenir sur le côté toucher les araignées, puisque mon but, bon là, dans l'aspect recherche, c'est ce que j'explique aussi dans la formation, on peut les regarder vivantes. C'est pas toujours évident de les observer et de les identifier vivantes. Donc à un moment donné, on va les mettre dans un liquide de conservation, l'alcool. Donc on va pouvoir les observer à l'alcool. Mais autrement, pour la découverte, donc ça c'est vraiment particulier pour le stage de formation et l'identification, je dis souvent on les manipule pas, on les touche pas, on les observe, on les regarde et on apprend à mieux les connaître. Et cette peur des araignées, elle est assez culturelle et assez occidentale. Elle n'est pas du tout répartie dans le monde entier. Il y a pas mal de pays, en Asie, en Afrique, où on a une approche beaucoup plus positive. Et d'ailleurs, tu as des contes et des légendes qui sont complètement positifs par rapport à l'approche de l'araignée. Et ils ont... Alors, on n'a pas quelque chose qui a été défini comme qu'est-ce qui a déclenché ça. Ce n'est pas possible de savoir ça. On a un ensemble de comportements. On évoquait l'éducation, ça peut jouer. On évoque aussi les contes et les légendes qui sont positives dans certains pays et négatives dans d'autres, comme en Occident, ou par exemple dans la Bible, ou dans des contes, on les associe aux sorcières, on les associe à la nuit, on les associe à quelque chose de fragile ou de néfaste. On leur prête tout un tas de mots qui sont négatifs. Et puis après, il y a la dangerosité évoquée qui pose problème alors que ce n'est pas dangereux. Donc tu vois, tu as tout un tas d'idées fausses qu'il faut déconstruire. Donc il y a une construction qui s'est faite au niveau culturel en Occident qu'il faut déconstruire. Alors du coup, là on est juste à côté de du gîte là, mais on a des, hop là, des super toiles qu'on peut repérer. Alors j'ai toujours avec moi un petit vaporisateur à eau, j'appelle ça mon pipiteur, et je recrée un peu la rosée du matin. Donc je mets un petit peu d'eau dessus et on voit mieux la forme de la toile.
Oui, là ça brille bien au soleil.
Ça brille bien au soleil. Donc du coup, si on va voir s'ils ont bien retenu qu'est-ce qu'il faut regarder. Donc là, on a une toile
géométrique.
Et qu'est-ce qu'il faut regarder, du coup ? Le centre de la toile qui est vide. Et donc ça, c'est une famille particulière donc qu'on appelle les...
Tétragnates.
Voilà.
Les tétragnates.
Tétragnatidés. Et donc l'araignée, alors ça, la toile était un peu abîmée, donc elle a dû capturer des proies... pour que tu vois, il y a plein de petits restes de proies et puis des,
oui.
Enfin, des choses qui sont voilà, qu'elle est plus aussi régulière. Et donc a priori, elle est normalement sous une des feuilles. Voilà. Donc elle est par là. Elle est souvent reliée à sa toile, hein, donc par un fil. Donc on va voir, hop là, et voilà qu'elle descend, tu vois. La position de ces araignées-là, quand elles sont juste en attente, c'est les pattes à l'avant qui sont très très allongées et ça fait comme un peu une petite brindille.
Oui, en fait, elle les met tendues devant elle.
Voilà, tout à fait, et les pattes arrière qui sont moins tendues. Et la taille des araignées, comme la majorité des araignées, c'est autour du petit centimètre. Donc la majorité des araignées, il faut vraiment ouvrir grand les yeux. Changer un peu son regard, on rentre à leur échelle et on s'oublie.
Et elle a une jolie couleur jaune aussi.
Oui, tout à fait. Donc que les araignées soient toutes sombres, noires, tu vois, non, c'est faux. Il y a toutes les couleurs dans le monde des araignées. On se balade encore un petit peu et puis on regarde, hein, on ouvre les yeux. Donc on a vu une toile géométrique, il peut y avoir d'autres types de toiles, les gars, du coup ?
Là, il y avait une toile géométrique, mais avec un moyeu...
Ah, avec un moyeu
plein.
Alors elle est... Ah oui. On repipite.
Elle est plus petite, celle-là.
Celle-là, elle est plus petite. Et au centre, il y a des petits fils. Et en plus, on voit que le centre, il est tiré par un fil un petit peu de avertisseur. Et l'araignée, elle est dans une petite retraite à côté. Et ça, c'est typiquement les petites araignées que beaucoup, beaucoup de gens peuvent voir au niveau des fenêtres dans des habitations. On l'appelle les pères des fenêtres. Elle a un petit fil tendu, elle attend, elle est en général nocturne et donc à la nuit tombée, elle se met au centre de sa toile et elle attend que les proies viennent dans son piège. D'accord. C'est de la chasse passive. Tu as des araignées avec des activités diurnes et d'autres avec des activités nocturnes, justement. Elles sont pas toutes pareilles. Alors, on a d'autres choses là ? Est-ce qu'il y a des toiles ? Ah, toiles en nappe.
Même, j'en vois pas.
Des toiles en nappe, à quoi ça ressemble ?
Alors, des toiles en nappe, c'est vraiment, tu vois, une nappe de. Comme une petite. Un petit voilage. Donc en nappe, hein, comme sur une nappe pour la table, c'est pas quelque chose de géométrique et droit ou un peu oblique. On est sur du nappage. Donc, et l'araignée peut se tenir à côté. Ah, il y en a une par là.
Ouais, on nous a signalé une.
Il y en a qui ont de bons yeux là, tu vois. Et petit à petit, exerce ton regard, tu vois, tu changes un petit peu et tu en découvres. Alors ça, on les trouve facilement aussi, ce que n'aiment pas trop les gens, dans les caves qui n'ont pas été souvent habitées ou visitées, ou dans des angles de fenêtres comme ça. Donc voilà ce que c'est qu'une nappe, c'est vraiment un tissu, un petit voilage assez dense et qui est un peu suspendu dans des angles, entre des tuyauteries. Et les araignées, donc pour ça, c'est une toile en nappe qui est prolongée un peu par un entonnoir qu'on peut voir en fait sous la brique. Là. Et donc l'araignée, dans la journée, se tient dans cet entonnoir et à la nuit tombée, elle va venir sur la nappe, les pattes étalées sur la nappe, et elle va attendre aussi que les proies viennent dans son piège.
Et avec ses pattes, elle va sentir quand il y a...
Elle va sentir les vibrations puisque les araignées, c'est très 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 sensoriel. C'est couvert non pas de poils, si on est rigoureux, mais de sortes de poils qui sont des soies. Et donc, elles sont donc soyeuses et non pas poilues. Et grâce à ces soies qui sont en fait innervées pour la plupart sur les pattes, ça va leur permettre d'avoir les sens du goût, du toucher, de l'odorat et de l'ouïe. Elles sont hyper sensorielles et sensitives.
Tous ces sens-là à partir de ces pattes.
À partir de ces soies sur les pattes. Voilà.
Et celle-là, c'est quoi comme espèce ?
Alors ça, c'est celle qu'on appelle les tégénaires. Les tégénaires qu'on a souvent dans les maisons, qui sont parfois celles qui focalisent un peu les peurs chez les arachnophobes, puisqu'elle est quand même d'une certaine taille, elle peut aller jusqu'à 1,5 cm de taille de corps, avec les pattes ça peut aller jusqu'à 3 cm d'envergure, et c'est celle qui parfois à l'automne tombent dans les baignoires, dans les bacs à douche, dans les lavabos, puisque les mâles à cette époque-là vont chercher les femelles et ont quitté leur toile et sont un peu plus errants dans, dans les habitations. Et comme ils sont sombres et qu'ils sont nocturnes, bon, il n'y a rien pour plaire en fait. Là. Donc tu vois, ça focalise un petit peu les phobies. Donc c'est les tégénaires des maisons hein, donc, qu'on peut retrouver.
Les araignées
Qui préfèrent les endroits abrités. C'est pas forcément, t'as pas d'espèces qui sont inféodées qu'aux habitations. C'est des endroits abrités puisque à leur échelle, elles pourront trouver un endroit abrité dehors, sous un tronc, dans un creux, etc. Alors, quelquefois, il y en a qui apprécient pas, donc ils veulent les remettre dehors. L'idéal, c'est de rien faire du tout et de les laisser tranquilles, puisqu'en plus, il y a un adage populaire qui dit qu'une maison avec des araignées, c'est une maison saine.
Et oui, parce qu'elle va manger
tout. Parce qu'elle va se nourrir de tout un tas de petites bêtes. Donc on la laisse tranquille. Si vraiment on n'est pas à la phase où on va laisser ça, il faut pouvoir ne pas la manipuler, mais prendre un récipient pour pouvoir la mettre dehors. Mais elle recherchera un endroit abrité de toute façon. Donc ça peut être de nouveau l'habitation. Hein, ou celle du voisin, je ne sais pas, mais bon, voilà. Tu vois.
Quelque part.
Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut voir autour
des habitations.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Une araignée sauteuse. Ah, les petites araignées sauteuses, par contre, tu vois, elles ont meilleur presse que les autres, hein, c'est pas vrai?
Ouais. Elles sont mignonnes, elles.
Ben, en fait, pour certains, elles sont mignonnes, mais tu sais, j'ai reçu des arachnophobes parce que dans mon travail, je fais depuis une trentaine d'années des séances de désensibilisation pour des phobiques, pour changer le regard, et j'ai eu des phobies qui n'étaient pas très à l'aise avec les araignées sauteuses parce qu'elles avaient deux gros yeux à l'avant. Et que pour beaucoup de gens, bah, c'est sympathique quand même, tu vois, c'est un peu mimi.
Bon, alors là, elle s'est planquée dans la fissure. Là.
Elle s'est planquée dans la fissure.
Elle va peut-être ressortir, mais...
Ouais. Alors c'est petit, hein, encore une fois, elle devait faire combien 3
mm 3 mm
quelque
à
chose
tout casser,
comme ça, tu vois. Donc il faut vraiment, tu vois, ouvrir les yeux. Alors c'est des petites araignées qui ont des gros yeux, puis qui sautent, qui font des petits bonds pour se déplacer, et qui font de la chasse en sautant. Donc elles n'ont pas de toile par contre celle-ci. Voilà. Une des idées fausses, toutes les araignées font des toiles, faux. Il y a la moitié des araignées qui font des toiles et les autres pas du tout. Voilà.
Allez, ressort.
Regarde. C'est tout petit, tu vois, c'est rayé un petit peu avec des petites bandes de soie blanche et des petites bandes de soie noire.
Elle a des petits motifs.
Elle a des tout petits motifs et puis elles peuvent. Et elle chasse dans la journée, tu vois. Ouais. Elle se déplace et elle chasse dans la journée. Donc on est sur vraiment, on est sur les araignées, tu vois par exemple que celles qui sortent, elles rentrent pas l'hiver parce qu'il fait froid, elles ne viennent pas, si tu veux, dans la bouche quand on dort, non, elles ont rien à faire d'aller dans ce trou béant là qui respire, qui, voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre idée fausse là? Vous en avez là un peu vous avez entendu là par exemple?
Qu'est-ce qui a été énoncé déjà?
On a dans la bouche, on a qui pondent sous la peau par exemple aussi. Tu vois, bah non, elles n'ont pas de. C'est une idée reçue. Elles n'ont pas de tarière, elles n'ont rien pour pouvoir se déplacer.
Ah, une autre araignée, regarde celle-ci. Elle est superbe parce que.
Ah,
elle
tu vois,
est
tu dis qu'elle est superbe.
Moi j'aime bien les araignées.
Voilà. Et donc celle-ci, elle est. Alors toujours. On la récupère, elles ont toujours un fil de déplacement, tu vois, elles ont toujours un fil derrière, et elles se laissent suspendre, donc c'est un fil de rappel, ou de survie, ou de déplacement, et donc elles bloquent le fil avec leurs pattes arrière, et elles peuvent remonter au bout de son fil. Celle-ci, elle a des petites pattes orangées, l'abdomen tout vert, et c'est un mâle ou c'est une femelle hein?
Un mâle.
Est-ce qu'on peut le
savoir? On peut savoir si c'est un mâle ou une femelle, comme ça, à la vue.
Oui.
Et comment on fait?
Regardez où?
Il faut regarder à l'avant les pédipalpes.
Alors les pédipalpes, c'est la petite paire de pattes supplémentaires en dehors des 8 pattes qui vont servir à marcher et qui, chez les mâles, vont être munies de boules. Et donc on a des bulbes copulateurs, donc les petites boules noires.
Est-ce qu'elles marchent vite celles-là?
Elles marchent vite, hein, elles se déplacent vite, hein, tu vois. Et donc on a des petites boules voilà, à l'avant. Donc s'il y a une araignée qui a des boules, c'est un mâle. Bulbe copulateur, et s'il n'y en a pas, c'est une femelle. Et celle-ci, elle fait partie d'un groupe qu'on appelle les épères concombres, au regard de sa couleur verte. Le petit nom scientifique, c'est Araniella cucurbitina. Elle se fait une pause, tu vois, et elle se nettoie. Elle est en train de se nettoyer. Les araignées font souvent des toilettes pour bien faire en sorte que les soies qu'elles ont sur le bout des pattes soient bien opérationnelles et qu'elles ressentent un peu tout.
Et là, on disait qu'elle était verte. Et en fait, quand on regarde de plus près, maintenant qu'elle bouge moins, on voit qu'il y a plein de petits points blancs ou un peu plus foncés.
Il y a beaucoup de couleurs. Hein.
Ouais, et de motifs.
Et de motifs, voilà. Il faut savoir les regarder effectivement de plus près. C'est pour ça que de regarder aussi, tu sais, pour des gens qui sont phobiques, je propose souvent de les voir à la loupe, justement, binoculaire, et tu les vois complètement différemment. Donc regarde ce qu'elle a fait. Donc une des méthodes de dispersion des araignées, elle a levé le derrière, elle a émis des fils de soie, les fils de soie se sont accrochés au hasard quelque part, et elle peut se déplacer sur ces fils, grâce à le moindre souffle de vent, ça les fait se déplacer. C'est ce qu'on appelle en fait le déplacement par le ballooning. Donc elle se déplace avec l'air. Voilà. Dans les autres idées reçues, on a aussi que les araignées déjà sont très dangereuses, donc ce qui est faux. Il y a très très peu d'espèces qui potentiellement pourraient provoquer une réaction chez l'humain, mais bon, il n'y a pas d'araignée mortelle, contrairement à cette idée fausse, souvent colportée dans les réseaux. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre idée fausse?
Qu'elles sont agressives, enfin, qu'elles attaquent.
Et qu'elles attaquent. Alors, elles attaquent leur proie, puisque ce sont des prédateurs, et qu'elles mangent beaucoup d'insectes en particulier. C'est des très bons insecticides naturels. Leur rôle au niveau écologique, si tu veux, c'est aussi ça. Et en plus, elles se mangent entre elles. Elles s'auto-régulent. Donc, ce n'est pas la peine de rajouter, de les tuer, puisqu'elles le font toutes seules. Et elles agressent leur proie. Mais jamais un humain ne peut être agressé par une araignée, puisque l'araignée ne nous capte pas dans son monde à elle.
On est trop gros.
On est beaucoup trop gros. Et puis, on est un support éventuel. Mais on n'est pas... Donc, elle ne peut pas attaquer quelque chose. Elle ne sait pas ce que c'est. Donc, on ne peut pas parler d'agressivité de l'araignée vis-à-vis des humains, on parle de réaction de défense si vraiment elle est coincée et qu'elle ne peut pas faire autre chose que faire une morsure mécanique de défense. Et en général, d'ailleurs, sans injection de venin. Oui. Puisque le venin, c'est important pour manger et pas pour forcément pour justement faire une réaction de défense.
Et est-ce qu'elle perd un peu des forces si...
Alors ça fait une dépense un peu d'énergie, de fabriquer des fils, de faire des crochetages, etc. Mais grâce aux aliments qu'elle va pouvoir ingurgiter, elle récupère en fait des protéines, elle récupère en fait un apport énergétique. Donc non, et puis bon, elles ont un métabolisme très bas, les araignées. Donc il n'y a pas besoin de manger tous les jours. Elles ont besoin de boire régulièrement, mais elles peuvent jeûner pendant des jours, des semaines, des mois. D'accord. Elles n'ont pas besoin de manger régulièrement, donc elles peuvent jeûner très longtemps. Donc c'est quand même c'est un mode de vie, parce que même dans les pièges, ou même quand elles se déplacent, ou elles attendent les insectes qui viennent butiner, elles ne mangent pas des proies tous les jours. Ça fait, et même dans les maisons, certains disent « qu'est-ce qu'elle peut manger dans ma maison? Je vois rien, etc. » Mais elles ne mangent pas tous les jours, encore une fois. Puis on a des petites mites qui peuvent voler, on a des mouches qui arrivent, des moucherons, des acariens.
Et puis
d'autres araignées, je te dis, il y a des araignées qui peuvent se manger entre elles, même dans les habitations. Donc,
Et les araignées qui se mangent entre elles, c'est des araignées d'espèces différentes ou ça peut être aussi de la même espèce?
Bonne question, parce que ça peut faire peur aussi, ça. On dit interspécifique et intraspécifique, c'est-à-dire c'est des espèces différentes, mais il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de famille, donc du coup, c'est des araignées qui sont, la plupart sont solitaires. Sur les presque 53 000 espèces qui existent au monde, il n'y a pratiquement que des araignées solitaires. Et donc, entre individus d'une même espèce, elles peuvent aussi se manger. Il y a du cannibalisme, mais sans que ça soit perçu de façon négative. Et on essaye de ne pas mettre de terme anthropocentré quand on décrit le monde des araignées. Ça n'a rien à voir avec le nôtre. Et dans l'état actuel de nos connaissances, il n'y a pas d'araignées gentilles, méchantes, etc. C'est un monde différent, avec un système nerveux différent, avec des perceptions différentes.
Tu as dit 53 000 espèces d'araignées dans le monde ? C'est déjà 53 000 espèces connues.
Donc. C'est ça, voilà. Et sans doute autant, si ce n'est pas 10 fois plus, encore à décrire.
Oui.
D'accord. Donc on est loin de la connaissance de la diversité. Oui. Donc, et on est quand même sur, grosso modo, en France métropolitaine,
1650.
Voilà.
1650 espèces. Ouais, ouais.
En 49 familles décrites, si tu veux. Alors, on ne trouve pas des espèces nouvelles tous les jours en France métropolitaine, hein, mais par rapport à d'autres pays tropicaux qui sont moins connus. Mais néanmoins, on peut encore en trouver. Hein. Donc, on est encore loin de tout connaître. Et cette diversité qu'on décrit, quelquefois on pose la question, mais à quoi ça sert de savoir qu'il y a tout ça comme araignée? Bah, c'est à quoi ça sert de savoir qu'il y a les acariens, les vers de terre? À quoi ça servait de connaître le nom des oiseaux qu'on a envie de chercher, etc. On en est à la connaissance de base, de la science fondamentale, de savoir dans quel monde on vit, avec quels autres animaux. On est un animal humain, il y a des animaux qui sont non humains. Apprenons à garder notre place dans la nature et à savoir la respecter. Et c'est surtout ça qui est important.
Oui. Et connaître aussi, c'est des indicateurs sur la santé d'un milieu peut-être aussi.
Ben oui, effectivement, c'est aussi ce qu'on approche, si vous voulez, ce qu'on aborde, c'est que dans le stage, je veux aussi montrer que dans des milieux un peu différents, tu vois, en zone humide, même dans au niveau d'une habitation, ou dans des zones un peu plus boisées, ou dans des prairies ouvertes, ou dans des milieux calcaires, des milieux qui sont plus exposés, on a des cortèges d'espèces qui sont différentes et qui sont indicatrices de l'état du milieu, de si elles sont présentes, bah, ça veut dire qu'elles ont des proies à manger, ça veut dire, donc tu vois, ça c'est toute une chaîne qui va se mettre en place à ce niveau-là, un niveau qui est plutôt microscopique par rapport à nous, mais qui est indispensable à l'équilibre. Hein. Tous ceux qui travaillent aussi sur les vers de terre, qui travaillent sur tout ça, si on les avait pas, ça serait problématique. Donc on se rend même pas compte que voilà, tout ce qui est au niveau du sol, toute la faune du sol, elle est hyper importante aussi. Et donc il y a des petites araignées, il y a des acariens, il y a des collemboles, il y a tout un tas d'organismes et des vers de terre qui sont indispensables à l'équilibre. Il ne faut pas regarder que les gros animaux. Quoi.
Et tout est lié.
Et tout est lié. Et si on enlève un petit peu ce qu'on disait à une certaine époque, un maillon de la chaîne, hein, donc ben, on peut provoquer des déséquilibres quand même. Hein.
C'est souvent après, une fois que ça a disparu, qu'on se rend compte à quel point c'était important. Ces espèces-là étaient importantes dans leur environnement aussi. On ne soupçonne pas, tant que toutes les espèces sont là, que l'écosystème fonctionne bien, l'importance des différents groupes d'espèces.
Et comment elles se portent, les araignées, comme groupe d'espèces ?
Ben c'est un peu difficile à répondre à cette question, puisqu'on est encore en train de décrire la diversité actuelle. Donc pour avoir une réponse par rapport à ce genre de questions, il faudrait qu'on ait fait des suivis de différentes populations dans les mêmes milieux, et qu'on voit si ça chute, etc., et qu'on voit des changements d'effectifs. Sachant que derrière, on a quand même aussi naturellement, biologiquement, des cycles biologiques qui peuvent se faire sur une dizaine d'années, avec des augmentations de population, des chutes de population pour X raisons, qu'on ne maîtrise pas forcément au niveau des facteurs, et puis ça repart. Donc il faut vraiment des suivis sur une longue durée pour se dire, ok, là vraiment on ne les voit plus, on en voit beaucoup moins, il y a vraiment un impact. Difficile à répondre à ça par rapport à beaucoup d'araignées. Néanmoins, il est quand même sorti il y a 3 ans maintenant une liste des espèces menacées en France, une liste rouge des espèces menacées en France métropolitaine. C'était un travail d'une dizaine d'années avec une dizaine de personnes sur 5 années avec des heures de discussion pour 1632 espèces de France métropolitaine. Et il y a un constat qui est quand même pas très très glorieux non plus, c'est qu'on a 10% des espèces rien qu'en France métropolitaine qu'on peut dire menacées, voire quasi menacées maintenant. Dû à quoi ? À l'utilisation de différents produits, pesticides et autres, à l'assèchement des milieux, à la déforestation, à l'artificialisation des sols, à des impacts qui sont uniquement dus aux humains. Et donc on a, oui, effectivement, constaté que pour certaines espèces, on avait des chutes d'effectifs quand même. C'est un constat, mais c'est comme ça, effectivement. Et les araignées n'étaient pas forcément les espèces, et on l'a dit, on en a discuté entre nous, les espèces qui sont celles qui sont mises en avant et les espèces phares qu'on va mettre en avant dans toute étude. Comme certains oiseaux, comme des plantes, comme des odonates dans les milieux humides, comme certains insectes, etc., qui sont souvent les groupes qui vont être étudiés le plus. Et certains des participants ici étudient beaucoup plus et mettent en avant ça plus dans leurs études, parce qu'il y a aussi moins d'espèces, puis il y a une connaissance différente, etc. Et les araignées, on commence maintenant petit à petit, tu vois, à les mettre en avant. Et ces stages de formation, moi, je trouve que c'est hyper important qu'on continue à faire ça, parce que je veux essayer de te faire un réseau, de transmettre des idées, de faire en sorte que plus ça va, plus on en connaisse, plus on puisse faire des inventaires, donc plus on puisse faire des comparaisons de milieux et d'évolutions, et qui vont nous permettre d'avoir des bases pour pouvoir répondre petit à petit à toutes ces questions aussi.
Il y a moins de spécialistes pour les araignées que pour d'autres espèces.
Il y a moins de spécialistes, les gars, il y a moins de spécialistes d'araignées que d'autres espèces, vous pensez ou pas?
Ça dépend de quelle autre espèce.
Alors, groupe d'espèces. On n'est pas nombreux sur les araignées, hein. On est en France, on va dire en tant que chercheur, enseignant-chercheur, donc payé par l'État pour ça, on est les doigts d'une main. Après, il y a quand même un grand nombre de personnes qui travaillent dans des structures environnementales, dans des bureaux d'études, dans des conservatoires, qui peuvent mettre en avant leurs compétences, et c'est ça un petit peu à ça que ça sert aussi le stage de formation. Donc on va augmenter à peut-être une quinzaine, une vingtaine de personnes, si tu veux, en France métropolitaine. Après, il y a des amateurs très, très, très éclairés aussi. Mais si tu prends, par exemple, les oiseaux, je ne sais pas pourquoi je prends les oiseaux comme,
Surtout en Brenne.
Voilà, pour la Brenne, c'est quand même pas mal. On a beaucoup moins d'espèces et beaucoup plus d'ornithos, même au niveau professionnel quand même, hein. Donc, tu as une disproportion par rapport à ça. Mais après, dans certains groupes d'insectes, hein, c'est ce que tu disais, Mathieu, dans certains groupes d'insectes, on n'a pas non plus un grand nombre de spécialistes. Mais on n'est pas sur le même nombre d'espèces non plus au niveau des connaissances quand même.
Un gros biais qu'il y a par rapport à ça aussi, c'est que pour les gens, de manière générale, une espèce d'araignée, c'est pas forcément... l'animal le plus magnifique, le plus sexy, ouais. En général, il y a un énorme biais, même dans la protection justement des espèces, c'est que plus quelque chose est joli, plus on va avoir tendance à s'y intéresser. Il y a qu'à voir le panda, par exemple, hein, qui est un très bon exemple, ce qu'on appelle les espèces peluches. Mais après, par exemple, les papillons, en général, c'est joli. Les papillons de nuit, ça ressemble à des mites un peu marron. Ça intéresse personne, alors que la diversité de ce groupe-là est
énorme.
On parle de moins de 300-400 papillons de jour en France métropolitaine, alors qu'en papillon de nuit, on est à plus de 2500 espèces, par exemple.
Donc plus que les araignées donc en France métropolitaine.
Et ça peut être un groupe où il y a des gens qui commencent à s'y mettre, à tout péter, il doit y avoir une cinquantaine de spécialistes en France, en voyant très large, quoi. Malheureusement, les insectes, les araignées ou même les autres arthropodes sont en général assez délaissés par les naturalistes au profit d'autres groupes plus visuels.
Alors, c'est pas forcément que par les naturalistes, tu as raison, mais c'est aussi par les postes qui vont être créés pour pouvoir continuer à faire des études, même au niveau recherche dessus. C'est pas les groupes qu'on va mettre en avant pour créer des postes, hein. Donc ça aussi, c'est quand même... aussi un problème.
Donc on en revient à l'importance de changer le regard qu'on porte sur ces espèces.
Complètement. Je ne pourrais dire mieux, changer notre regard et puis apprendre à mieux connaître pour mieux respecter. Hein, pas forcément préserver ou protéger, mais pour respecter. Et dans ce respect, on va aussi avoir une autre idée des habitats, des micro-habitats qu'on peut continuer à conserver. Et de permettre en fait de cette explosion de la biodiversité, même à un niveau microscopique et non pas macroscopique, voilà, donc sur des espèces toujours mises en avant.
Merci à Christine et aux stagiaires donc de la formation pour avoir pris le temps de répondre à mes questions pour faire cet enregistrement. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. À la prochaine.
Parlons nature. Bienvenue dans l'émission. Ça donne pas le bourdon. Proposé et co-animé par Indre Nature, l'association Épinété,
le Centre permanent d'initiative pour l'environnement
et la Réserve naturelle nationale de Chérine. Dans l'émission Ça donne pas le bourdon, tous ensemble, Parlons d'environnement.